Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Le 15 octobre 1844 naissait le philosophe, philologue, poète et musicien Friedrich Nietzsche. Fils d'un pasteur, Nietzsche, après ses études, est appelé à la chaire de philologie classique de l'université de Bâle. En 1870, il s'engage comme infirmier dans le conflit franco-allemand. De retour à Bâle, il entre en relation avec le milieu intellectuel bâlois et rend de fréquentes visites au compositeur Richard Wagner qui réside aux environs de Lucerne. La philosophie de Nietzsche est l'une des pensées les plus complexes, complexité liée tant à son écriture poétique et aphorique qu'à son refus de se situer clairement dans la tradition philosophique. Insaisissable, ses écrits doivent s'aborder comme une montagne, une progression lente. Aujourd'hui, retour sur sa pensée et sa vie grâce à Colomba Grossi et Vincent Deck.
Nietzsche, un problème allemand. Un documentaire de Colomba Grossi, réalisé par Vincent Deck.
Je connais mon sort. Un jour, s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Une crise comme il n'y en eut jamais sur Terre, la plus profonde collision des consciences, un arrêt rendu contre tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant cru, exigé, sanctifié. Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite. Réévaluation de toutes les valeurs. Telle est ma formule de l'acte de suprême prise de conscience de soi de l'humanité qui, en moi, s'est fait chair et génie. Mon sort veut que je doive être le premier humain honnête, que je me sache en opposition aux mensonges millénaires. Je suis un annonciateur de bonnes nouvelles comme il n'y en a jamais eu. Ce n'est qu'à partir de moi qu'il y a de nouveau des espérances. Avec tout cela, je suis aussi nécessairement l'homme de la fatalité. Car lorsque la vérité engagera le combat avec le mensonge millénaire, nous aurons des ébranlements, un spasme de séisme, un déplacement des montagnes et des vallées comme on n'en a jamais imaginé. L'idée de politique se sera alors tout entière résolue en une guerre des esprits. Toutes les constellations de puissance de l'ancienne société auront explosé. Elles reposent toutes sur le mensonge. Il y aura des guerres comme il n'y en a encore jamais eu sur Terre. Ce n'est qu'à partir de moi qu'il y a sur Terre une grande politique.
Si Nietzsche meurt en 1900, sa vie consciente, elle, prend fin au début de l'année 1889. Sa production philosophique s'arrête, le délire prend définitivement le dessus. À la lumière de cet épisode, que l'on appelle parfois l'effondrement de Turin, on a souvent cru pouvoir placer toute l'existence et la pensée de Nietzsche à la limite de la folie. C'est à elle que l'on a un peu facilement attribué sa langue poétique ou incantatoire et ses formules fracassantes et d'apparence définitive. La folie de la fin de sa vie a aussi contribué à construire cette image fascinante que l'on a du philosophe aujourd'hui encore. Une intelligence fulgurante qui apparaît d'un coup comme une bombe et qui disparaît un beau jour tout aussi violemment. Nietzsche n'est pourtant pas né philosophe. Sa venue à la philosophie, il la doit à plusieurs choses. Une longue immersion dans les lettres classiques et la culture grecque antique. La rencontre avec différents maîtres, Schopenhauer et Wagner au premier chef. Ainsi qu'un intérêt aigu pour le contexte politique et culturel de son temps. On pourrait dire d'ailleurs que son premier geste philosophique consiste à émettre, à propos de la modernité, un diagnostic pessimiste. Nos valeurs, nos conditions de vie, nos préférences inconscientes nous conduisent aujourd'hui à dénigrer la vie, à lui tourner le dos. La pensée de Nietzsche s'exercera dès lors dans une seule direction, travailler à rendre possible l'apparition de nouvelles valeurs en Europe, réformer la culture européenne. C'est là que les choses prennent un tour sulfureux. Après sa mort, ce projet de réforme de la culture est mal compris, malhonnêtement infléchi et annexé, entre autres, par le régime national-socialiste. Nietzsche devient, malgré lui, le penseur de l'écrasement des faibles, de la volonté de domination et de la mythologie de la race. L'annexion a laissé des traces, et assez logiquement, il a fallu du temps, après la guerre, pour que Nietzsche sorte du purgatoire nazi où il avait été confiné. Loin des caricatures, il redevient possible d'examiner à peu près sereinement les questions et problèmes d'ordre politique que l'on trouve chez Nietzsche. Or, le premier et le principal de ces problèmes, celui qui nous retiendra aujourd'hui, c'est ce que Nietzsche appelle d'un nom apparemment simple, l'Allemagne. Nietzsche s'est autoproclamé à plusieurs reprises médecin de la culture, et d'abord de la culture allemande. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Savoir pourquoi Nietzsche, dès ses premiers textes, c'est-à-dire autour de 1870, s'intéresse à la culture allemande, et quel est le problème que recouvre le terme de « Kultur » en allemand.
Alors, la question de la culture allemande, c'est une question importante et qui est liée au fait, je dirais presque, c'est un symptôme de l'histoire allemande.
Michel Cohen-Halimi, professeur de philosophie à l'Université Paris 8.
C'est que l'Allemagne s'est toujours attendue elle-même, que son histoire est scandée par la séparation, la réunification, l'unité de l'Allemagne en attente d'elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette Europe du XIXe siècle, l'Allemagne est le pays qui connaît le plus tardivement son unité politique. 10 ans après l'Italie, quand même, évidemment bien après la France, et qu'elle a pâti de cette situation. En 1850, l'Allemagne a encore 39 États. Bon. Et s'est longtemps posé l'alternative de savoir si l'unité politique allait se produire autour de la Prusse ou alors linguistiquement à partir de l'Autriche, d'une tutelle autrichienne. Voilà. Et après Sadova, la défaite des Autrichiens contre les Prussiens, eh bien c'est la Prusse, voilà, 1866, c'est la Prusse qui prend un ascendant dans cette affaire, dans cette grande aventure. Mais disons qu'avant que le Reich, le Deuxième Reich, soit proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles en janvier 71, ce qui me semble très important, c'est de voir que depuis le XVIIIe siècle, l'Allemagne s'attend elle-même dans son unité politique. Et que s'attendant elle-même dans cette unité politique, elle a pensé la Kultur comme le lieu de constitution de son unité à venir, politiquement. Et ça, c'est très important. Par exemple, quand les Prussiens sont défaits à Iéna en 1806, Frédéric Guillaume III pense un relèvement national à partir de l'université allemande. Il convoque les plus grands philosophes de l'époque, Hegel, Schleiermacher, Fichte, etc. Et il invente, voilà, une sorte de résurrection de l'esprit allemand dans et par l'université allemande. Alors ce geste est très important parce que Nietzsche le répète avec ses conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. Donc la Kultur, si vous voulez, c'est en fait l'édification du peuple dans et par la littérature, la formation intellectuelle, et ça me semble extrêmement important parce que du coup, il y a une sorte de surinvestissement politique de la Kultur qui tient lieu presque de politique.
Le problème allemand occupe absolument toute l'œuvre de Nietzsche.
Georges-Arthur Goldschmidt, écrivain et traducteur de Nietzsche.
Et le grand malheur de l'Allemagne, dit Nietzsche, c'est justement son unification. Et en même temps, cette unification fait naître en 30 ans toute l'industrie allemande. En quelques années, sauf l'Angleterre, un précédent extraordinaire, l'Allemagne explose sur le plan industriel. Et une espèce de bouleversement des mentalités dont Nietzsche est le témoin. Qu'est-ce qui naît? Une espèce de bourgeoisie prospère, très étendue, de gens qui annexent la culture alors qu'ils n'en ont aucune idée. Et pour lui, l'Allemagne ist immer im Werden. Elle est toujours en devenir. Pour lui, l'Allemagne, au fond, à la limite, ne doit pas exister. Parce que toute Allemagne trahit d'une certaine manière l'Allemagne. Sa vision de l'Allemagne est à ce point idéalisée, à ce point poétique, qu'elle est, et on a vu ce que ça a donné, une force qui ne doit pas dire son nom. Et c'est pourquoi il dit l'Allemagne est une nation en devenir.
Ce devenir politique de l'Allemagne, Nietzsche y assiste. Il est témoin de l'unification des États allemands en un empire en 1871. Cette évolution, il l'observe depuis la ville de Bâle, en Suisse, où il occupe une chaire de philologie à l'université. Ce qui veut dire que juste avant la guerre franco-prussienne, Nietzsche a quitté sa Prusse natale et qu'il est déjà à 25 ans professeur à l'université en Suisse.
Alors, juste une chose, c'est qu'il me semble que Bâle, c'est pas cette Suisse qu'on imagine tranquille et douce, retirée de toute la vie politique européenne, parce qu'en réalité, toute la révolution européenne est en Suisse. Au moment où Nietzsche arrive à Bâle, il y a le premier congrès international, enfin la première internationale se réunit en septembre 69 à Bâle, qui est une ville de 30 000 habitants. Alors bien sûr que Nietzsche sait qu'il y a Bakounine, qu'il y a Varlin, qu'il y a Moses Hess. Voilà, toutes ces personnalités, Marx n'est pas venu, mais il aurait pu venir. Et toutes ces personnalités sont à Bâle au moment où Nietzsche arrive faire ses cours. Donc ça me semble quand même, Bâle en plus c'est une ville, voilà, mais même toute la Suisse est le lieu de refuge de toute la révolution communaliste française.
Lettre à Erwin Rohde, Bâle, 16 juillet 1870. Terrible coup de tonnerre. La guerre franco-allemande est déclarée et toute notre civilisation, râpée jusqu'à la corde, se précipite entre les bras du plus terrible démon. Quelles expériences n'allons-nous vivre ? Amis, très chers amis, nous nous serons revus au crépuscule de la paix, comme je t'en sais gré. Si l'existence à présent devient pour toi intolérable, reviens chez moi. Qu'adviendra-t-il de tout ce vers quoi nous tendons ? Il se peut que ce soit déjà pour nous le commencement de la fin. Nous aurons à nouveau besoin de monastères, et nous serons les premiers fratresses. Signé le fidèle Suisse.
Et alors Nietzsche, en 70, il est professeur à Bâle, il s'est défait de sa nationalité prussienne, mais il veut quand même être mobilisé. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette guerre, du coup ?
Il sera soldat. Oui, ça c'est peu dit, mais il s'engage comme infirmier. Il va suivre une formation de 15 jours à l'hôpital militaire d'Erlangen en juillet 1870. Et après ça, eh bien, il va être dans des trains et il va ramasser les blessés. Donc il va aller jusque Metz. Il va suivre différents champs de bataille. Dans Ecce Homo, il dira que la naissance de la tragédie s'est écrite pendant la bataille de Wörth. Et donc là, il y a des morceaux de son journal qui restent dans les posthumes. On n'a pas l'intégralité du journal, mais il tient un journal. Et puis il y a la correspondance avec sa mère et sa sœur qui est assez précieuse, à qui il raconte les choses. Et il ramasse les blessés, il ramasse des corps dans un état affreux. Et il les convoie dans des wagons à bestiaux. Et là, il attrape quasiment au bout de 10 jours, à peine, il attrape la dysenterie, la diphtérie, et il est rapatrié à Naumbourg assez rapidement, après avoir été soigné à l'hôpital d'Erlangen. Enfin, ça lui donne quand même le sentiment de ce qu'a été cette boucherie, et c'est une expérience pour lui totalement ravageuse. C'est une expérience d'horreur, de souffrance, d'absurdité. Et Nietzsche considère donc qu'il y a un paradoxe qui est que cette victoire annonce la défaite de la culture allemande.
Une des choses qu'on peut dire, d'après le témoignage de Nietzsche lui-même, c'est qu'il prend conscience à cette époque que les États, les nations européennes, ne savent plus rien faire d'autre que de la politique à courte vue.
Céline Denat, maître de conférences en philosophie à l'Université de Reims.
Une politique qui ne consiste à se soucier que de leur propre puissance étatique, nationale, nationaliste, et que cela les conduit à s'entre-détruire. Nietzsche a vu vraiment les cadavres empilés et les blessés qu'on transportait dans les wagons et qui mouraient sous ses yeux puisqu'il avait un poste d'infirmier. Donc il est assez probable que cela lui ait fait prendre conscience tout de même qu'il y a une certaine forme de politique de la puissance, hein, comme on le dit à l'époque bismarckienne, qui manifestement ne peut que contribuer à la dévastation des États et des hommes. Mais sans doute que cette expérience contribue à faire de Nietzsche un penseur soucieux effectivement de se déprendre des questions politiques au sens usuel du terme, pour se questionner sur l'état de notre culture. Alors, à l'époque, effectivement, la question de la culture allemande et la question de savoir comment faire s'épanouir ou comment guérir une culture allemande qu'il juge décadente, défaillante, maladive. Culture qui, à ses yeux, effectivement, est soumise, alors, d'une part, à un questionnement extrêmement ancien qui est la question seule et unique de la vérité, à la domination de la science au détriment d'autres domaines et en particulier au détriment de l'art. Et puis, ce qu'il soucie aussi, par exemple, c'est tout ce qui relève de la massification, c'est-à-dire cette idée que
Tout le monde est censé avoir les mêmes goûts, les mêmes opinions, se soumettre aux mêmes normes. Donc cette défaillance de l'individualité et de l'individualisation, ça lui semble être quelque chose d'extrêmement problématique. D'autant plus que, il faut s'en souvenir, et c'est l'un des objets majeurs aussi de la naissance de la tragédie, Nietzsche a en tête des points de comparaison qui relèvent de l'Antiquité grecque. L'un des ressorts, comme l'indique le titre de l'ouvrage La naissance de la tragédie, c'est que il y aurait, dans la perspective de Nietzsche, un exemple, peut-être pas un modèle absolu, mais un exemple de culture plus favorable, plus pleine, plus entière, qui est la culture grecque tragique, qui dure très peu de temps, hein. Disons d'Eschyle et de Sophocle, quoi, puis de Sophocle, et rien de plus, qui serait ce court moment où la culture grecque atteint son apogée.
C'est une grande question de savoir, dans le fond, ce que modèle, ce que façonne la culture. Et toute l'Europe, la France, l'Italie, etc., a convoqué le modèle grec. Mais le modèle grec de l'âge classique, c'est-à-dire en fait la Grèce du IVe siècle. Et donc, pour penser sa propre culture, l'Allemagne fait un pas de côté. Il y a la Grèce des Français et des Italiens, la Grèce du miracle grec, la Grèce du IVe siècle, la Grèce du triomphe d'Athènes après les guerres médiques. Et puis il y a une Grèce du Ve et du VIe siècle qui serait plus originaire. Et l'intérêt de cette Grèce-là du VIe et du Ve siècle, c'est qu'on l'a occultée et que Nietzsche nous reconduit en quelque sorte à la mémoire de notre oubli, considérant que l'intérêt de ce geste, plus radical, et puis surtout différent de celui des Français et des Italiens, dont il faut se démarquer pour affirmer une singularité allemande, eh bien ce geste-là, il nous conduit vers une Grèce qui a puisé dans l'Orient, et Dionysos et Zarathoustra viennent d'Orient, dans une Grèce qui nous dépayse, dans une Grèce qui nous met à distance, dans le fond, de toute familiarité. Donc ces Grecs-là, des 6e et 5e siècles, ne sont pas nos contemporains, mais ils ont quelque chose à nous apprendre sur nous depuis notre oubli d'eux. Alors les préplatoniciens, les penseurs préplatoniciens, enfin tout ce que le socratisme a totalement occulté. Quand on lit Hegel, la philosophie, elle commence avec Socrate. Or Nietzsche nous dit, il y a toute une philosophie antésocratique. Il y a Thalès, il y a Parménide, il y a Anaxagore, il y a Héraclite, il y a Empédocle, etc. Et donc ce dépaysement-là va nous apprendre sur nous-mêmes, mais alors sur nous-mêmes, je dirais, sur nous-mêmes en tant qu'être humain. Il ne va pas chercher Nietzsche dans cette outre-Grèce, dépaysante, autre. Il ne va pas chercher, dans le fond, un principe identificatoire pour l'identité allemande.
Et par ailleurs, dans la culture grecque, ce qu'il aperçoit, c'est un type de culture qui favorise le développement d'une diversité d'individualité. Aussi, c'est quelque chose qu'il souligne, pour une part, dans la naissance de la tragédie, mais peut-être aussi dans d'autres textes, comme la philosophie à l'époque tragique des Grecs ou d'autres. Et plus tard aussi, dans son œuvre, où il nous dit que grâce à différents procédés ou à différents types de valeurs, les Grecs réussissaient justement à ne pas opérer ce phénomène d'homogénéisation des individus qui caractérise notre culture. Par exemple, dans Les Savoirs, il dira même que le polythéisme grec, ça permettait de favoriser une diversité de valeurs qui permettait aux individus, en quelque sorte, d'opérer des choix, en fait, et de ne pas vénérer tous la même chose. Donc il y a effectivement ce souci de la diversité, de la sauvegarde et du développement des individus dans leurs différences, qui se seraient perdues aux yeux de Nietzsche à l'époque actuelle, et qui auraient existé, entre autres, à l'époque grecque antique, en tout cas jusqu'à une certaine époque de l'Antiquité grecque.
Dans la naissance de la tragédie, Nietzsche observe l'Allemagne de son temps depuis l'Antiquité grecque, depuis l'époque des Grecs tragiques, et il distingue dans la culture grecque certains traits qui lui semblent hautement positifs. Mais ce qu'on trouve aussi dans ce livre, c'est une référence répétée à la musique de Wagner. Et on est en droit de se demander ce que vient faire la musique de Wagner dans un livre sur la tragédie grecque.
Dans une large mesure, la naissance de la tragédie telle qu'elle a été écrite initialement se présente ainsi. Il s'agit de réfléchir l'exemple de l'époque tragique grecque pour y trouver les ressources ou les moyens de faire renaître ou de renouveler la culture allemande. Et bien sûr, l'œuvre musicale de Wagner joue dans un premier temps, un rôle central, puisque quand on lit la totalité de La naissance de la tragédie, l'ouvrage est clairement divisé implicitement en deux moments. Hein. On a une première moitié qui est consacrée à l'Antiquité grecque, à cette opposition entre culture tragique et culture socratique. Et le deuxième moment de l'ouvrage est assez largement consacré à la question de la musique, et entre autres de la musique wagnérienne, avec ce fameux exemple Tristan et Isolde. L'œuvre wagnérienne étant présentée à cette époque comme une manière d'analogue de l'œuvre de tragique, hein, une sorte d'œuvre d'art total qui mêle poésie, musique, etc. Et qui donc pourrait donner à la culture allemande les mêmes ressources de renouvellement et d'épanouissement que la tragédie avait donné à l'Antiquité grecque.
Au départ, la rencontre, elle se fait dans une grande passion pour la musique de Wagner. Bon, lycéen, il a découvert le Tristan. Mais la rencontre, elle est dans ce projet de théâtre qui, pour Wagner lui-même, s'inspire du théâtre grec. C'est-à-dire que dans le fond, le peuple trouverait dans le théâtre de Bayreuth le lieu et l'occasion de son réveil comme entité nationale. Et Nietzsche s'accorde avec ce projet, dont il va devenir un temps le militant frénétique. Pour lui, ce projet, c'est dans le fond le projet précisément d'un peuple qui devient sa propre œuvre dans et par la culture. Donc ça me semble important, d'autant que le théâtre de Bayreuth est conçu par Wagner vraiment dans une grande fidélité à ce qu'était le théatron grec, qui ne séparait pas la scène de l'ensemble des gradins. Donc c'est un événement total. Avec en plus une œuvre d'art totale qui impose aux chanteurs d'être aussi des danseurs, de se mouvoir sur la scène. L'orchestre est sous la scène, donc on vit une expérience qui ravive le lien communautaire, ou qui la vive, ou qui même le constitue. Et donc pour Nietzsche, ça c'est vraiment une expérience avec laquelle il est en plein accord.
Le dissensus viendra pourtant assez rapidement. Nietzsche prend peu à peu conscience de ce qu'il sépare de Wagner sur le plan politique. L'indice le plus parlant étant la victoire allemande de 71. Extraordinaire victoire de la nation et de l'esprit allemand pour Wagner, présage sombre qui annonce un repli identitaire des États sur eux-mêmes pour Nietzsche.
Et puis le 22 mai 1876, il y a donc la première pierre posée du théâtre, et puis il y aura la première dans l'été. Et là, Nietzsche arrive avec retard. Il n'a absolument pas envie de voir l'empereur Guillaume Ier. Il n'a pas du tout envie de rester très longtemps avec toute cette mondanité politique. Il y a l'empereur du Brésil, enfin voilà, il y a tous les serviteurs de l'Empire. Et puis il y a les Wagner qui gravitent avec bonheur et joie dans tout ce petit monde.
Nietzsche voit que Wagner est en train d'abord de profiter cyniquement de la situation.
Patrick Wötling, professeur de philosophie à l'université de Reims.
Et puis de devenir une espèce d'artiste officiel, c'est-à-dire aux antipodes de ce que Nietzsche avait vu en lui, c'est-à-dire un réformateur de la culture, un esprit libre, quelqu'un qui est capable d'attaquer les pesanteurs, les structures de son temps, pour essayer de mettre en place quelque chose de novateur. Là, tout au contraire, Wagner devient une sorte de despote artistique qui n'a plus d'intérêt que pour la propagation de sa propre gloire et qui va par ailleurs véhiculer avec la propagation de sa propre gloire une idéologie qui là pour le coup est franchement l'idéologie agressive, antisémite, nationaliste qui est celle de la nouvelle Allemagne et que Nietzsche réprouve absolument. C'est pour ça qu'il dit dans Ecce Homo, j'ai écarquillé les yeux, je n'ai pas compris, je n'ai pas reconnu Wagner, il était tombé parmi les Allemands. Wagner s'était traduit en allemand lui-même, dit-il. Il fait toute une série de plaisanteries à ce sujet pour dire que ça n'est plus du tout l'esprit libre qu'il avait connu une dizaine d'années plus tôt. Et qu'il est extrêmement déçu, bien entendu, par cette évolution.
En 1876, c'est le congé donné à Wagner, ils ne se reverront plus. Il y a dans ce congé donné chez Nietzsche souvent ce qui va participer des amitiés stellaires. C'est-à-dire, je pense qu'il va garder une certaine admiration pour la musique de Wagner. Mais vraiment, à partir de 1881, et il dit toute la nausée que lui inspire le Parsifal, c'est-à-dire le sang du Christ dans le Graal, mêlé à la germanité, mêlé au mythe des Celtes, enfin voilà, toute cette sorte de confusionnisme au service d'une identité allemande, d'un national-esthétisme. Tout ça, ça lui donne la nausée, et là, Nietzsche va cultiver ce qu'il appellera une amitié stellaire, c'est-à-dire une admiration, je crois, quand même indéfectible pour une certaine musique de Wagner, sauf le Parsifal, et une profonde hostilité à tous les textes et à ce que les textes de Wagner ont idéologiquement nourri. Sa vénération de l'État prussien, le réveil du Premier Reich, enfin de tout ce grand empire germanique qui va donner lieu à une mythologie qui va aller de manière inflationniste occuper jusqu'au début du XXe siècle. Et donc Nietzsche voit tout venir, et tout ce qui gravite autour de Wagner dans cette période est précurseur du nazisme.
Le différend entre Wagner et Nietzsche est donc de nature politique. Leur vision de l'avenir de l'Europe est inconciliable. Wagner appelle de ses voeux une hégémonie ou une suprématie allemande en Europe, alors que Nietzsche, qui est apatride depuis 1869, choisit, lui, une autre voie que celle du nationalisme.
Nietzsche, en ce qui concerne la question de l'Europe, ne vous présente pas un programme en vous disant « l'Europe devrait ressembler à ceci ou à cela ». Néanmoins, on peut dessiner un certain nombre de traits qui caractérisent sa pensée à cet égard. Alors, un premier trait qui est en quelque sorte un trait négatif, l'une des choses qui soucie Nietzsche, c'est effectivement que l'on se déprenne de tout ce qui relève du nationalisme, de ce qu'il appelle parfois la patriotardise, c'est-à-dire effectivement cette tendance à ne se soucier que de sa nation, que de son pays, et ce bien sûr au détriment des autres, avec cette idée que pour être la meilleure nation, il faudrait nécessairement dominer les autres, voire se les approprier, voire les conquérir, etc. Alors ça, c'est quelque chose que Nietzsche n'aime pas. La première raison, c'est une raison vraiment philosophique de fond, qui est que cet attachement affectif et violent à sa nation, c'est quelque chose qui fait absolument obstacle à ce qu'il appelle par ailleurs l'indépendance d'esprit. C'est ce qui fait obstacle à la réalisation de l'esprit libre, donc que doit être le philosophe. Là où on est quasi maladivement attaché à sa patrie, à ses croyances, etc., on est nécessairement aussi un esprit borné, qui ne voit pas au-delà des limites de sa nation, de ses coutumes, de ses croyances, etc. Donc vous avez de multiples textes. Je vous dis que pour parvenir à l'indépendance, il ne faut rester attaché à rien, et entre autres pas à sa patrie.
Le Gai Savoir, 1882. Nous, sans patrie. Il ne manque pas parmi les Européens d'aujourd'hui d'hommes qui ont le droit de se qualifier de sans-patrie en un sens qui distingue et honore. C'est à eux que je veux expressément recommander ma secrète sagesse et Gaia Scienza. Car leur sort est dur, leur espérance incertaine, c'est un tour de force de leur inventer une consolation. Mais à quoi bon? Nous, enfants de l'avenir, comment pourrions-nous être chez nous dans cet aujourd'hui? Nous répugnons à tous les idéaux au sein desquels, même dans cette époque de transition fragile et brisée, quelqu'un pourrait encore se sentir dans son pays. Nous sommes loin d'être assez « allemands » au sens que l'on donne communément aujourd'hui au mot « allemand » pour prendre le parti du nationalisme et de la haine raciale, pour pouvoir nous réjouir de la gale du cœur et de l'empoisonnement du sang nationaux, à cause desquels aujourd'hui, en Europe, les peuples s'enferment dans leurs frontières et se retranchent les uns des autres comme pour se mettre mutuellement en quarantaine. Nous sommes trop impartiaux, trop malicieux, trop gâtés pour cela, trop bien instruits aussi, trop formés par les voyages. Nous préférons de loin vivre sur les montagnes, à part, inactuelles, dans des siècles passés ou à venir.
Meine Liebste ist verschwunden, die dort gewohnt hat.
Nietzsche est sensible à tout ce qui, dans le contexte politique, peut être un frein à l'épanouissement de la culture. Et donc, en fait, aussi à l'épanouissement de l'homme.
Emmanuel Salansky, maître de conférence en philosophie à l'Université de Strasbourg.
En tout cas, il considère qu'un État trop souverain, trop obsédé par les questions de grandeur nationale ou de suprématie militaire, a tendance précisément à réprimer la culture ou à l'empêcher de prospérer. Et donc ça, il le dit dès Humain trop humain, en fait, hein, quand il lance l'expression de grande politique, mais en un sens péjoratif.
Dans un sens négatif, parce que c'est l'expression qui qualifie la politique de Bismarck.
Alors, c'est une expression qui, effectivement, est employée par Bismarck et par le gouvernement allemand du Deuxième Reich. Alors, si on veut être précis, il semblerait que ce soit le moment où, dans la décennie 1880, Bismarck commence à accepter l'idée d'avoir une politique coloniale. Puisque, auparavant, le Reich allemand, qui a été fondé en 1870, ne s'était pas engagé dans cette aventure coloniale. Et à partir de la décennie 1880, ça commence à être le cas, alors en Afrique en particulier, du côté de la Namibie ou de la Tanzanie. Et pour qualifier finalement ces visées politiques internationales, l'expression de « grosse politique » en allemand est utilisée. Alors Nietzsche sait très bien ça, mais il veut critiquer cette conception-là de la grandeur d'une politique, et il le fait de manière assez subtile, c'est-à-dire que, dans un premier temps, dans Humain trop humain et Aurore, il développe une critique de ce que les Allemands appellent la grande politique, donc d'une politique nationaliste, militariste, coloniale, une politique d'expansion nationale, si vous voulez. Et dans un deuxième temps, Nietzsche va se réapproprier l'expression de grande politique, mais en lui donnant un sens nietzschéen. Ça, on le voit dans Par-delà bien et mal. Et c'est un geste tout à fait typique de la part de Nietzsche. Ça correspond à une certaine stratégie qu'il adopte pour transvaluer les valeurs, comme il le dit. Ça correspond à son projet de réforme des valeurs dominantes. Et cette stratégie, ça consiste à se réapproprier les mots de l'adversaire, capturer les mots et transformer leur signification pour promouvoir d'autres valeurs.
Ce que signifie la grande politique, c'est effectivement ce travail de recréation des valeurs européennes, dont il vous dit que c'est un travail, d'une part, de longue haleine. On ne peut pas transformer les valeurs européennes en un instant par le biais d'un simple discours, en quelque sorte. Et deuxièmement, il dit aussi que c'est un travail pour lequel la physiologie doit devenir la reine des sciences. C'est-à-dire que ce que Nietzsche appelle valeur, ça n'est pas quelque chose qui relèverait uniquement de la pensée consciente. Ça n'est pas quelque chose qui serait simplement synonyme de croyance consciente. Les valeurs, par exemple la croyance à la valeur absolue de la vérité, du vrai, du savoir, c'est quelque chose certes que nous pouvons penser consciemment, mais c'est aussi quelque chose que nous avons intériorisé depuis des millénaires. Hein. De sorte que, pour surpasser ces valeurs, il va falloir faire un travail que Nietzsche décrit comme un travail d'élevage, hein, un travail de modification du corps et des valeurs qui sont incorporées. On ne peut pas se contenter d'une éducation qui relèverait de l'esprit, de la rationalité, parce que tout cela ne touchera pas au fond de l'incorporation des valeurs qui conditionnent notre existence tout entière. Si les valeurs qui sont les nôtres sont celles qui ont été incorporées depuis Socrate, depuis Platon, si cette incorporation a pris des siècles, alors, en retour, il serait bien sûr extrêmement naïf de dire « Maintenant, moi, en tant que philosophe, j'arrive et je vais transformer vos valeurs et je vais vous transformer. » Les choses ne peuvent pas marcher de manière immédiate. Il y a d'ailleurs un certain nombre de textes où Nietzsche se défie de toutes les tentatives d'ordre révolutionnaire, cette idée qu'on pourrait renverser les valeurs ou transformer la culture par le biais d'un mouvement violent, radical, instantané, ou qui ne prendrait que quelques jours, ou même que quelques années, en fait. À l'égard de cette tentation à laquelle il donne le nom un peu commun de révolutionnaire, Nietzsche dit deux choses. Il vous dit « soit ce sera vain, ça ne marchera pas », on renversera des choses de surface, mais somme toute, les valeurs fondamentales resteront intouchées. Soit ce sera extrêmement dangereux, Parce que si réellement on pouvait supprimer, toucher de façon radicale aux valeurs qui sont les nôtres de manière forte et radicale, parce que ces valeurs sont des conditions de vie, nous mettrions notre vie en danger. Donc l'idée, c'est que il faut parvenir à transformer ces valeurs. Cette transformation doit nécessairement être envisagée sur la longue durée. Il faut nécessairement envisager une thérapeutique qui soit de l'ordre, dit Nietzsche dans Aurore, des petites doses, du peu à peu. Parce que premièrement, cela ne pourra sans doute marcher que de cette façon. Et parce que deuxièmement, lorsqu'on transforme des conditions de vie, si on ne veut pas prendre le risque tout simplement de ne plus pouvoir vivre, il faut que cette transformation soit progressive et sur la longue durée.
Une longue durée, c'est ce qu'il faudra selon Nietzsche pour que les Européens puissent modifier leurs conditions de vie et renoncer une fois pour toutes à ce que platonisme et christianisme nous ont légué en termes de croyances et de préférences qui nous servent de repères dans l'existence. Il faudra du temps avant de s'apercevoir, par exemple, que nous avons choisi de rechercher partout le vrai et de croire à l'existence d'une contradiction réelle entre vrai et faux, sans jamais la questionner. Pourquoi, en effet, vouloir à tout prix la vérité ? Quel bénéfice en retire-t-on ? Autant de questions que l'état de notre culture ne nous permet pas encore de poser. Mais si le projet nietzschéen de réforme des valeurs n'est pas pour demain, c'est aussi plus simplement parce que lire Nietzsche demande du temps. Il revendique lui-même d'être un auteur difficile et exige un lecteur actif, prêt à fréquenter, à ruminer ses textes très longuement.
Nietzsche, régulièrement, en particulier dans les préfaces qu'il ajoute à ses ouvrages, ne cesse de dire « Je ne peux pas être compris facilement, il va falloir du temps pour qu'on m'entende ». Dans la préface de la généalogie de la morale, par exemple, vous avez cette formule fameuse qui consiste à dire que la compréhension de ses écrits n'est pas pour demain. Ou bien encore cette formule qui consiste à dire qu'il est un écrivain posthume, c'est-à-dire qu'il ne sera compris qu'après sa mort, etc. Cela tient effectivement au mode d'écriture particulier de Nietzsche. Il dit explicitement qu'il utilise un langage qui n'est simple qu'en apparence, mais qui est en fait un langage extrêmement original et spécifique qu'on ne peut pas saisir quand on le lit trop rapidement ou trop immédiatement. Et donc que ces difficultés de lecture font qu'il faudra peut-être un bon siècle pour le comprendre. En disant cela, en fait, Nietzsche incite effectivement à la prudence dont certains lecteurs n'ont pas toujours su faire preuve, ce afin d'éviter certains des contresens massifs dont on sait qu'ils ont pu être commis à son égard.
Le jeune Nietzsche, d'emblée, pense qu'un auteur, un philosophe, est compréhensible par un lecteur, pour autant que le lecteur fait un effort d'interprétation dans la lecture. Et d'emblée, le jeune Nietzsche sélectionne son lecteur, mais alors de manière explicite. C'est-à-dire que, par exemple, les conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, qui devaient être publiées, puis qui ne le sont pas finalement, avaient un avant-propos qui est repris dans une des 5 préfaces offertes à Cosima Wagner, où Nietzsche dit « J'attends de mon lecteur 3 choses ». Donc il y a 3 requêtes. La première, c'est qu'il lise lentement. La deuxième, c'est qu'il n'interpose pas sa lecture entre lui et le texte. Et la troisième, c'est qu'il n'attende pas un tableau de résultats. Voilà, j'ai fait un effort, je veux être gratifié de mon effort. Alors que serait une lecture, dans le fond, qui ne produirait aucun acquis immédiat, en tout cas pas immédiat, mais qui serait plutôt à penser dans le registre de la transformation de soi. Voilà, il y a des lectures dont on ne sort pas inchangé. C'est-à-dire qu'on va sortir transformé de cette rumination, parce que ruminer est aussi la dimension très courte, c'est assez nouveau dans la philosophie allemande qu'un philosophe écrive des phrases aussi courtes que celles des moralistes français. On a l'habitude en philosophie allemande de lire des phrases qui font 2 pages, avec des subordonnées qui s'enchaînent, qui s'enchevêtrent. Chez Nietzsche, les phrases permettent en fait une mémorisation assez facile, et donc le texte continue de nous travailler. Et ce travail-là, c'est de ce travail-là que Nietzsche attend quelque chose. Donc quand il dit « d'aucun n'est posthume » ou « je n'ai posthume », c'est pas un moment de délire comme on a tendance à interpréter les dernières phrases de Nietzsche. C'est véritablement la mesure que l'effet de sujet que produit ce travail de lecture va demander un temps qui excède la vie de l'auteur.
Nietzsche est donc prudent, il sélectionne son lecteur, veut égarer ceux qui seraient trop pressés et qui pourraient commettre des erreurs d'interprétation. Mais malgré tout, malgré les précautions qu'il a prises, Nietzsche a sans doute été l'un des auteurs qu'on a le plus mal compris, dont on a tordu ou infléchi les thèses de façon malhonnête et parfois dramatique.
D'abord, il faut rappeler quelque chose, c'est que Nietzsche a conscience d'être un auteur dangereux. Il le dit clairement, il souligne qu'il pratique une forme d'expérimentation, alors d'expérimentation intellectuelle, mais aussi d'expérimentation axiologique. Et ça, bien entendu, c'est le risque. C'est le risque, et lui-même ne prétend pas être inoffensif. Mais ensuite, si on réfléchit, puisque c'est à ça que vous faites allusion, si on réfléchit sur l'appropriation nationale-socialiste de Nietzsche, qui s'est effectivement produite dans les années 30 et 40, et avec une certaine ampleur. C'est un phénomène qui, historiquement, est incontestable, mais qui, à mon avis, n'a pas porté sur le cœur du projet axiologique de Nietzsche, puisque précisément, ce projet, il nous disait en particulier, dans la généalogie de la morale, il faut se poser le problème des valeurs. Il faut mener une interrogation critique sur les valeurs et une interrogation méthodique. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche présente un projet de recherche, c'est comme ça que c'est dit. Il voudrait que d'autres auteurs reprennent le flambeau et poursuivent cette réflexion critique qui ne doit pas du tout être dogmatique et considérer que le problème des valeurs est définitivement résolu, parce que ça, ce serait une manière de retomber dans les morales que Nietzsche critique depuis Par-delà bien et mal. Donc je pense que cette dimension critique, elle n'existe pas du tout dans les appropriations idéologiques qui se développent à partir des années 30. Et je vous en donne un exemple. C'est l'exemple de, on peut dire, du principal interprète nazi de Nietzsche, qui s'appelle Alfred Bäumler, qui publie en 1931 un livre qui s'intitule en allemand « Nietzsche der Philosoph und Politiker », donc Nietzsche le philosophe et le politique, on pourrait dire. Et alors ça, c'est une lecture qui considère comme tout à fait évident que l'hypothèse de la volonté de puissance, ça veut dire que les peuples doivent être conquérants, s'agrandir militairement, et en particulier le peuple germanique, que Bäumler considère comme doté de toutes les vertus, évidemment, et qu'il dont il retrouve l'influence, en fait, dans tout ce qu'il y a de valable dans l'histoire, et Héraclite, c'est germanique, selon Bäumler, etc. Donc, dans une lecture comme celle-là, on voit bien que la dimension critique disparaît complètement. Il n'y a pas de véritable interrogation axiologique de la part de Bäumler. Il considère que le problème est déjà résolu, en un sens. Il fait une lecture très sélective de Nietzsche. Finalement, il se focalise sur un certain nombre de doctrines qu'il croit avoir comprises, comme celle de la volonté de puissance, et quand il a l'impression, lui, que ça entre en contradiction avec d'autres aspects de la pensée de Nietzsche, ben, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il met cet autre aspect de la pensée nietzschéenne à la poubelle. Ça illustre un petit peu ce en quoi l'appropriation nationale-socialiste a pu consister. C'est pas des lectures fines qui entrent dans le cœur de la réflexion de Nietzsche, c'est plutôt des captations tout à fait intéressées et non critiques, finalement.
Deux termes ou expressions ont été particulièrement captés par les tenants de l'idéologie nazie. Celle de surhumain et celle de volonté de puissance, qui font d'ailleurs parfois figure de slogan à coller au nom de Nietzsche, sans que l'on sache véritablement ce qu'il veut dire par là. Par volonté de puissance, nous dit Nietzsche, il ne faut pas entendre un désir de dominer ou de commander. La puissance dont il s'agit ne désigne pas le pouvoir politique, mais une maîtrise de soi, un contrôle des pulsions ou des tendances inconscientes qui, pour Nietzsche, constitue un individu. La puissance chez Nietzsche n'est pas quelque chose que l'on recherche en dehors de soi, mais quelque chose que l'on est. Chaque individu est puissance. À partir de là, il faut comprendre l'expression « volonté de puissance » comme un mouvement de croissance, d'expansion. Un mouvement qu'on retrouve à l'œuvre dans la réalité tout entière, qu'il s'agisse du monde vivant ou du monde inanimé. Nietzsche nous dit qu'il est possible de voir l'ensemble des phénomènes physiques comme le résultat de relations entre diverses pulsions ou mouvements inconscients qui tendent à croître. La conclusion qu'il en tire, c'est que dans la mesure où toute la réalité est faite de relations entre pulsions, il n'y a pas lieu d'établir des différences de nature entre les êtres. Le partage, par exemple, entre monde organique et monde inorganique n'a plus de raison d'être. Tout phénomène, est une manifestation particulière de la volonté de puissance, comprise comme jeu entre différentes pulsions.
Quand Nietzsche dit que la réalité peut se lire comme volonté de puissance, il en parle de la bien et mal, c'est la fameuse hypothèse, c'est ça justement, le contenu en est, il est possible de lire la réalité comme volonté de puissance, et bien le contenu en est précisément que la réalité peut s'interpréter comme étant entièrement constituée par de la pulsion. Et c'est ça que Nietzsche essaie d'établir dans sa fameuse hypothèse. Toute la réalité peut se lire comme étant de la pulsion. Ce qui veut dire, et on comprendra peut-être mieux l'intérêt, sans ça, ça peut sembler une lecture un peu tirée par les cheveux, un peu compliquée, qu'il faut éliminer, disqualifier la manière dont on voit la réalité habituellement, c'est-à-dire comme de l'être, ou comme différents genres d'être, par exemple du sensible, et par opposition du spirituel ou de l'intelligible. Nietzsche dit que toutes ces lectures de la réalité sont fautives. Il faut en reprendre l'examen, et si on mène cet examen à son terme, avec rigueur, comme il le fait par exemple dans Part de la bien et mal, le résultat auquel on aboutit, c'est que tout est pulsion. Voilà ce que veut dire volonté de puissance. Ça ne signifie en rien désir de domination, volonté égoïste d'asseoir un pouvoir personnel ou des choses comme ça.
Ainsi parlait Zarathoustra. Première partie, 1883. Prologue de Zarathoustra. Lorsque Zarathoustra arriva à la ville voisine située au bord des forêts, il y trouva un grand rassemblement de gens sur la place du marché, car il avait été proclamé que l'on verrait un danseur de cordes. Et Zarathoustra parla ainsi au peuple. « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ? L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain, une corde par-dessus un abîme, un franchissement dangereux, un chemin dangereux, un regard en arrière dangereux, un frisson et un arrêt dangereux. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre, à moins qu'ils ne vivent dans le déclin et le franchissement. J'aime ceux qui sont pleins d'un grand mépris, parce que ce sont eux qui vénèrent et qu'ils sont des flèches du désir d'aller vers l'autre rive. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes tombant une à une du nuage sombre suspendu au-dessus des humains. Ils annoncent la venue de la foudre et périssent. Annonciateur. Voyez, je suis un annonciateur de la foudre et une lourde goutte est tombée du nuage. Cette foudre a pour nom le surhumain.
C'est l'année de la mort de Wagner, qui affecte énormément Nietzsche, et c'est aussi le moment où paraissent les deux premières parties d'Ainsi parlait Zarathoustra, le livre le plus populaire de Nietzsche. Deux autres parties suivront, en 84 et 85. Dans une langue extrêmement travaillée, une écriture que Nietzsche qualifiera lui-même de musicale, le livre fait état des allées et venues du personnage de Zarathoustra, entre la montagne où il a coutume de se retirer, parfois des années durant, et la ville voisine. À la ville, Zarathoustra prêche, devant une foule de gens qui ne l'écoutent pas, la venue de ce qu'il appelle le surhumain. Et là aussi, les mauvaises interprétations sont allées bon train, et l'on a longtemps traduit « Übermensch » en allemand par « surhomme » en français, ce qui laissait imaginer un individu supérieur dont il fallait hâter la venue par une sélection ou une purification biologique.
Le surhomme, ça, pour une oreille française, ça renvoie à un individu. On voit tout de suite l'individu dans son unicité qui est doué de super pouvoir ou de talent ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est une chose un peu bizarroïde qui, là, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir, même franchement rien à voir avec ce que Nietzsche pense. Par contre, surhumain, ça reste énigmatique, mais au moins on comprend qu'il s'agit de quelque chose de collectif, de général. Or, Nietzsche le dit clairement, c'est explicitement. Il faut que les surhumains soient nombreux. S'il y en avait qu'un, dit-il, ça deviendrait un diable. Ce ne serait plus un surhumain. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Bien, Nietzsche dit dans un posthume que les philosophes doivent travailler en artiste à former l'homme lui-même. Voilà. La pensée du surhumain se rattache à cela. Surhumain, ça désigne un nouveau type que Nietzsche essaie d'imaginer, dont il essaie d'envisager la réalisation. Et quel intérêt d'en envisager un de neuf, puisqu'il y en a déjà beaucoup? C'est qu'il essaie de penser la forme qui pourrait être la plus épanouie, la forme de la santé la plus poussée, de l'équilibre, de l'épanouissement humain, disons, le plus poussé que l'on puisse réaliser. Parce que, sous la pression des valeurs ascétiques qui sont les nôtres, la vie est en train de devenir malade. C'est-à-dire que l'homme est en train de se dégoûter de l'existence, de la vie humaine, ce qui explique la montée des courants pessimistes, nihilistes. Des choses importantes dont la petite politique s'occupe pas, c'est ça, justement. C'est ça, elle ne voit pas, étant fondée sur ces valeurs, elle ne voit pas que la vie est en train de se retourner contre elle-même en Europe. Et le philosophe, dont Nietzsche dit toujours que c'est un médecin, qu'il faut le comprendre par rapport à l'image du médecin, mais il a pour objet d'intervenir là-dessus. Ben donc le surhumain, le type surhumain, dont Zarathoustra parle beaucoup, effectivement, puisqu'il, même si personne ne l'écoute, mais donc il explique que ce sera une forme de vie affirmative, c'est-à-dire qui se sera guérie de cette espèce de condamnation de la vie qui est en train de prévaloir aujourd'hui. La vie ne vaut rien, finalement, la vie est injuste, la vie est cruelle, la vie est une source de souffrance, la vie ne vaut pas d'être vécue. Voilà l'idéologie qui est en train de se répandre partout en Europe, nous dit Nietzsche, contre ça qu'il faut lutter. Et le type surhumain, donc, ça n'est pas un individu qui a des super-pouvoirs, c'est une forme de vie qui sera organisée de telle manière qu'elle produise un attachement, au contraire, à l'existence, en dépit des souffrances, des injustices que la vie contient inéluctablement.
On a vu qu'il y a dans les textes de Nietzsche des termes qui ont pu être tordus de façon tout à fait intéressée pour leur faire dire ce qu'ils ne disaient pas. Est-ce qu'en dehors de ces exemples, il y a quelque chose qui, pour vous, a donné prise à la récupération nazie de Nietzsche?
Alors moi, je dirais, c'est controversé au sein des études nietzschiennes, mais mon interprétation consiste à dire que ce qui a donné prise à l'appropriation nazie chez Nietzsche, c'est l'eugénisme. C'est le fait que Nietzsche, dans le contexte de la montée de l'idéologie eugéniste, à partir de la publication de l'Origine des espèces de Darwin, dans ce contexte-là, Nietzsche développe un projet d'élevage, et le terme qu'il utilise c'est Züchtung en allemand, qui a une dimension eugéniste, même s'il ne s'y réduit pas. Donc à l'origine, il va piocher ce terme dans les sciences du vivant de son temps. Il est donc conscient de la dimension biologique ou organique, si vous voulez, de ce terme. Mais en même temps, Nietzsche ne l'oppose pas à une dimension beaucoup plus culturelle et spirituelle, si vous voulez. Et ça, c'est rendu possible par sa pensée de l'hérédité, qui est encore une pensée de l'hérédité lamarckienne, c'est-à-dire que Nietzsche admet la possibilité de l'hérédité des caractères acquis. Donc ça veut dire que la culture, quand elle est suffisamment maintenue sur une durée suffisante, peut aussi transformer le corps et l'hérédité. Et par conséquent, il n'y a pas d'étanchéité entre une pensée de la culture et une pensée biologique. Tout le problème, c'est que pour nous, contemporains, il y a une distinction de principe entre l'inné et l'acquis, donc entre le plan du corps biologique et puis le plan des valeurs culturelles. Mais dans le contexte de la deuxième moitié du 19e siècle, c'était pas le cas, à cause du lamarckisme justement, qui était l'hypothèse dominante au sujet de l'hérédité. Donc les valeurs qu'une culture instaure, si elles sont maintenues durablement, mais ça veut dire qu'elles vont s'inscrire dans le corps et s'inscrire dans l'hérédité. Et par conséquent, si on transforme les valeurs, on élève les hommes. Il n'y a pas du tout de frontière hermétique entre les deux. Alors, dans ce contexte-là, Nietzsche développe effectivement un projet d'élevage. Et ce projet, alors, il a une face positive et une face négative, comme dans les autres eugénismes de l'époque, comme chez Galton, par exemple. La face positive, c'est l'idée que on pourrait produire un mélange européen qui serait culturellement plus intéressant. Donc, on produirait une sorte de type humain supérieur. Mais alors, chez Nietzsche, ça veut dire qu'on n'en exclut pas du tout les Juifs, c'est pas combiné avec un antisémitisme comme ce sera le cas dans le nazisme. Et puis la face négative, à mon avis, c'est la plus effrayante en fait, et elle devient particulièrement effrayante dans les textes de 88. Cette face négative, c'est l'idée que les décadents, les dégénérés, doivent être exclus de la reproduction.
Et très concrètement, lui, ses déficients ou ses décadents, c'est qui? Ça concerne qui?
C'est toute l'ambiguïté, en fait. Le problème, c'est que chez Nietzsche, le mot dégénéré ou le mot décadent, qu'on trouve chez d'autres auteurs à l'époque, chez des auteurs beaucoup plus savants, si vous voulez, comme des psychiatres, des Charles Ferré ou des Galton, etc. Chez Nietzsche, ces mots-là, ils prennent en fait une signification et une dimension beaucoup plus culturelle, en fait. Le décadent, chez Nietzsche, finalement, c'est l'individu qui a incorporé l'idéal ascétique judéo-chrétien et qui donc est travaillé par une forme de mauvaise conscience et qui n'est pas en mesure de conserver sa sûreté d'instinct et donc qui va chercher instinctivement des remèdes qui aggravent son mal, etc. Donc le décadent de Nietzsche, c'est pas la même chose que le décadent de Ferré et c'est pas la même chose que l'individu inapte de Galton. Mais je pense que ça, c'est le genre d'ambiguïté et de quiproquo qui de toute façon caractérise la littérature eugéniste. Parce que d'emblée, cette littérature, elle a produit en fait des interprétations très divergentes de ce que c'était qu'une amélioration biologique. Une amélioration biologique, ça dépend toujours en fait des valeurs qu'on professe par ailleurs. Donc derrière un discours ou des termes qui pouvaient être les mêmes d'un auteur à un autre, il y a en fait une diversité axiologique très importante.
La récupération, car c'en est une, accompagnée d'une falsification tout à fait claire, très facile à démontrer, le travail a été fait depuis très longtemps. La récupération et la falsification de Nietzsche par l'idéologie nazie et par le régime, une chose qui est bien connue, mais qui, vous avez raison, a laissé une réputation, disons, de penseur tout de même sulfureux, voire dangereux. Mais effectivement, il y a une sorte de mauvaise réputation qui s'est instaurée longtemps, qui a été très vite combattue également. Albert Camus, par exemple, a été un des premiers grands intellectuels qui ait considéré qu'une injustice morale considérable avait été commise à son égard et qu'il fallait reprendre la lecture, en réexpliquer la pensée pour montrer à quel point la récupération était une distorsion de la réalité de sa pensée. Mais là, ce sont des choses qui laissent des traces, c'est incontestable.
Nietzsche, un problème allemand. Un grand merci à Michel Cohen-Halimi, Céline Denat, Georges-Arthur Goldschmidt, Emmanuel Salansky, Patrick Wotling, ainsi qu'à Michel Vuillermoz pour la lecture des textes. Coordination Christine Bernard, assistée de Daphné Abgral. Un documentaire de Colomba Grossi, réalisé par Vincent Deck.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Suzanne Saint-Cast. Tout de suite, à 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.